CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Le Villefranchois, un journal, une semaine, un autre regard. Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue. En kiosque tous les jeudis.
Allez, vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Édition du magazine d'actualité en CFM Villefranche, édition de ce jeudi 26 mars que je partage avec Éric Lachon. Salut Éric.
Bonjour David.
Éric Lachon, journaliste, chef d'édition au Villefranchois. C'est le tour d'horizon à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire. Et on commence avec l'info de la semaine qui concerne ces élections départementales. Deuxième tour sur le canton de Villefranche.
Tout à fait. Et puis bon, donc dans la perspective de ce second tour, nous présentons les résultats et les faits marquants qui sont se sont dégagés du premier tour qui avait lieu dimanche. Alors, premier fait, d'abord, la majorité départementale sortante a remporté un certain nombre de succès puisqu'il y a 8 cantons qui sont d'ores et déjà tombés dans l'escarcelle de l'équipe de la liste présentée par Jean-Claude Luche, l'actuel président du Conseil général de l'Aveyron. 8 cantons, dont celui d'Aveyron-Vior, sur lequel Andréa était en concurrence avec Patrice Couronne. Dès le premier tour, donc, Andréat s'impose, et puis de manière tout à fait nette, puisqu'il totalise 57,54%, donc dès le premier tour. Il
67% s'impose à Crespin, c'est
ouais,
dingue.
C'est un score de République bananière, carrément. Ouais. Il s'impose dans toutes les communes du canton, du nouveau canton, donc Aveyron-Tarn, y compris à Morion, où Patrice Couronne était maire jusqu'aux dernières élections où il avait décidé de ne pas se représenter pour briguer justement d'autres mandats, celui qui dans lequel il était en course cette fois-ci. Ça sera pas pour donc ce coup-ci de toute évidence.
Loin d'être ridicule, la liste majorité citoyenne.
Oui tout à fait. Il réalise 14,40%, ce qui est un joli score. Ce qui explique aussi la faiblesse du score de Patrice Couronne. Hein, la gauche était divisé. Enfin bon, toujours est-il que avec 57,54% pour Andréat, de toute façon, uni ou pas, ça n'aurait rien changé à la chose. Autre fait marquant de ce premier tour, c'est que à Villefranche, c'est Laurent Tranier qui arrive en tête. Ce n'est guère une surprise puisque bon, la droite, on va dire, est la droite classique est unie au cours de ces élections, contrairement à la gauche qui était divisé entre plusieurs candidats, évidemment Éric Cantournet, Jean-Michel Bouissier, Boris Cortijos, enfin bref, c'est sur trois listes différentes. Et cet éparpillement a coûté cher à Jean-Michel Bouissier, par exemple, qui avec donc Marilyn Palis n'arrive qu'à 11,02%, ce qui paraît être un score très très faible.
3% à Vaillourle, je crois.
Oui, c'est des scores extrêmement bas. Du côté de la liste Cortijos-Leroy, on atteint 8,65%. C'est déjà plus en accord avec ce que pèse à peu près le front de gauche sur le secteur. Éric Cantournet, lui, avec Stéphanie Bayol, obtient 29,84%. C'est un score tout à fait honorable. C'est 4% de plus que ce qu'il avait obtenu en 2011 face à Claude Penel et à Serge Roch. Donc il est en position, on va dire, très favorable au second tour face à Laurent Tranier, qui lui n'a pas trop de réserve de voix. Alors il compte beaucoup sur les abstentionnistes et puis sur ceux qui ont voté pour d'autres candidats pour éventuellement se reporter au deuxième tour. Bon, mathématiquement, on va dire que les choses se paraissent difficiles, mais pas impossibles. En tout cas, c'est les électeurs qui vont choisir dimanche. Du côté de Villeneuve et Villefranchois, là il y a un coude à coude très serré entre Pierre Coste et Gisèle Riga, deux poids lourds du secteur, deux anciens conseillers généraux sortants qui s'affrontent dans un nouveau canton. Là, ça, il va y avoir du sport, je pense, dimanche. Ça sera très intéressant de voir qui de Pierre Coste ou de Gisèle Rigal a réussi à renouveler son mandat. Et puis, bien sûr, un des faits marquants de cette élection, c'est que d'abord, la participation a été moins mauvaise que prévu, même meilleure, puisque on a obtient un score d'abstention inférieur à celui de 2011, ce qui permet, on va dire, de maintenir le Front National à un niveau qui est celui qu'il avait aux européennes, autour de 16-17% dans les meilleurs des cas sur les cantons. Voilà, donc un paysage politique plus classique que ce qu'on pouvait imaginer avec la vague bleu marine qui devait s'abattre sur la France. Donc en tout cas, ça s'est pas abattu en Aveyron. Donc voilà, deuxième tour passionnant, hein, puisque on va avoir donc de beaux duels en perspective, avec également un côté intéressant au niveau de Lot et Dourdeau, où Christian Thuelier, l'ancien conseiller général qui avait été battu en 2011 sur le secteur de Decazeville, eh bien reprend des couleurs et revient un peu titiller la gauche sur le vieux fief du bassin Houillé. Et là, donc, il arrive en tête avec 76%. Là, ça paraît être aussi un élément intéressant à prendre en compte pour le second tour. Deux pages que nous consacrons aux résultats de ce premier tour.
C'est la revue de titre L'essentiel de l'actualité, présentée par Éric Lachon. On poursuit avec le dossier de la semaine.
Dossier de la semaine que nous consacrons au chemin de Saint-Jacques. 2015 sera une très très grande année pour les chemins de Saint-Jacques à Villefranche-de-Rouergue. C'est en tout cas ce qui ressort de l'analyse que nous avons pu réaliser en interrogeant l'association du Barouergue vers Compostelle qui s'occupe de la reconnaissance de ce chemin pour attirer un maximum de pèlerins sur une variante. C'est un petit peu compliqué, les chemins de Saint-Jacques, il y a toujours des variantes. Villefranche se positionne sur une variante. Depuis maintenant 2 ans, cette variante a été reconnue par le guide officiel qui recense les chemins de Saint-Jacques. Et toute une logistique se met aujourd'hui en place pour accueillir les pèlerins qui, nous l'espérons, vont bientôt arriver en masse sur la Bastide. Et donc 2015, eh bien, c'est une année charnière, puisque d'abord il y a la restauration de l'ancien centre social qui va devenir une aile de l'hôtel des Florines, dans laquelle, eh bien, il va y avoir des chambres dédiées à l'accueil des pèlerins. Donc la structure d'hébergement existe. La chapelle Saint-Jacques qui jouxte cet immeuble, eh bien, est en cours de restauration et va bientôt abriter une exposition, une forme d'interprétation du phénomène jacquaire sur le secteur. Il y a également la Borne-Fontaine qui a été inaugurée en septembre, et un tas d'autres éléments, comme par exemple le chemin du patrimoine qui va longer les berges à Villefranche et qui va venir donc conforter vraiment la thématique jacquaire sur
le tronçon de Villefranche.
Voilà, sur le tronçon de Villefranche. Et puis, il ne faut pas oublier que Villeneuve a aussi un projet de maison de pèlerins et bien d'autres communes. Donc, ça c'est en train de se mettre en place. Et nous consacrons un dossier complet à ces réalisations qui vont voir le jour dans le courant de l'année 2015.
Ça va être en cascade après pour les villages.
Il y a toujours
Monteil, la Rouquette,
on va vers Najac, bien évidemment. Et après, on rattrape vers Cordes-sur-Ciel. Voilà, donc un bel itinéraire qui sera jalonné par des structures d'hébergement et qui mettront aussi également en valeur le patrimoine jacquaire qui est riche sur le secteur, puisqu'il faut savoir que Villefranche, par exemple, est la seule ville bourgade du secteur à avoir une chapelle dédiée à Saint-Jacques. Il y avait une confrérie du Saint-Jacques à Villefranche, donc contrairement à bien d'autres villes qui accueillent beaucoup plus de pèlerins que Villefranche.
Avec quand même une coque au bas d'un pilier à la chapelle Saint-Jacques, enfin on a des signe très clair. Un peu fort. Allez, le dossier de la semaine, donc les chemins de Saint-Jacques, développé dans la passion du jour de notre hebdomadaire, Le Villefranchois. On poursuit cette revue de titre avec le portrait de la semaine.
Ah oui, un portrait un petit peu atypique et puis décalé, mais c'est très sympa d'avoir rencontré José da Silva, passionné de voitures anciennes et des années 60, qui vit vraiment sa passion au quotidien. Pour lui, être dans l'esprit rock, c'est vivre comme à l'époque des, des années 60 avec la tenue adaptée. Et puis c'est devenu une affaire de famille, hein, puisque son épouse et sa fille sont aussi dans le même trip. Et donc José que l'on surnomme José Rocky, hein, puisqu'il est bien connu pour être voilà un fan des années 60. Eh bien José da Silva organisait dimanche avec un groupe de passionnés une magnifique exposition de voitures de cette époque-là, et il nous donne rendez-vous pour une journée qui sera aussi tournée autour des voitures anciennes et de l'esprit rock le dimanche 5 août. Voilà, donc
l'esprit rock, c'est CFM, Eric, c'est nous. On poursuit cette revue titre avec la deuxième parution, le deuxième cahier de la parution du jour, l'actualité des cantons.
Alors du côté des cantons, riche actualité sur le bassin, puisqu'il y a deux faits marquants. Le premier, c'est la visite du casino de Cransac, en avant-première, hein, le casino Cransac va ouvrir le 16 avril. Une belle réalisation portée par le groupe familial des casinos Arévian. Antoine Arévian est venu dernièrement à Cransac, c'est là que nous l'avons rencontré avec le maire, et nous avons pu visiter ce qui sera un point central, hein, pour l'animation sur le secteur du bassin. Parce que ce casino va être ouvert 7 jours sur 7 avec une amplitude horaire très grande, puisqu'il ouvrira à 11h et fermera 2h en semaine et jusqu'à 3h du matin le vendredi et le samedi.
Oui, mais pas de roulette.
Il y aura une roulette électronique dans un premier temps.
Mais c'est très bien.
Voilà, donc une table roulette. Ouais. Il y aura également du blackjack, il y aura également des machines à sous. Le bandit manchot. Elles seront bien bientôt, certainement au nombre de 75, hein, il commence avec un nombre un peu plus réduit pour roder un petit peu la machine. On est à 50 machines au départ, mais Antoine Arévian a annoncé qu'on allait rapidement monter à 75. Et puis, c'est une bonne affaire sur le plan aussi de l'emploi, puisqu'il y a 25 salariés qui vont travailler dans ce casino, qui ont été recrutés sur le secteur, vraiment, et formés par le groupe. Et donc, un bel outil pour le développement et l'attractivité du bassin. Le groupe attend environ 80 000 visiteurs par an, avec là aussi des retombées sur l'hébergement, des retombées sur la restauration, bref, voilà, c'est toute une dynamique qui se met autour. Il y aura des animations, des petits concerts, des soirées magie, du karaoké, bref, de quoi animer vraiment le bassin, qui reprend des couleurs d'ailleurs, vous allez le voir, puisque à Decazeville, on nous a annoncé la mise en place d'une foire exposition pour le mois d'octobre, une nouvelle organisation qui se met en place, puisque ça fait au moins 20 ans que le bassin n'avait pas organisé sa propre foire expo. Et là aussi, en quelques mois de commercialisation, plus de 80% des stands ont trouvé preneur. Il s'agit d'une exposition qui prendra place dans le hall du Laminoir à Decazeville. Et la mairie de Decazeville ainsi que la communauté de communes est partenaire sur le plan logistique, puisqu'il propose la salle et un certain nombre de mises en place effectuées par les services municipaux pour l'organisation. Une organisation qui est une organisation privée. C'est une société d'événementiel à Rodez qui organise cette foire expo. Les deux Calzevillois sont très fiers de pouvoir montrer bientôt à tout l'Aveyron et leur savoir-faire, et puis le dynamisme économique qui semble aujourd'hui pousser un peu derrière cette commune qui se bouge un peu, qui s'embellit, qui essaie de sortir d'un passé un peu sinistre vers un avenir qui, tous l'espèrent beaucoup, sera plus souriant.
Pour revenir sur l'actualité du casino, faudrait y être, hein, le 16 avril, les machines à sous sont programmées pour faire gagner les joueurs, hein, spécialement ce jour-là.
Je sais pas si jamais, effectivement, peut-être qu'il y aura quelques gagnants, mais ça m'étonnerait quand même que le casino commence par vider ses caisses dès le premier jour.
La banque gagne toujours. Un petit mot peut-être du côté des sorties du week-end.
Alors tout à fait, du côté des sorties du week-end, eh bien nous vous invitons au Salon du Livre Ancien à Villefranche, qui se tiendra donc ce week-end sous la sous la halle. C'est Patrice Le Sieur, un grand passionné de livres anciens et qui est à la tête de l'association La Compagnie des Amis du Livre de Villefranche-de-Rouergue, qui en est à l'instigation. Et c'est vraiment un beau rendez-vous pour les bibliophiles. Il y aura vraiment de quoi satisfaire tout le monde, puisque il y aura des ouvrages pour certains très rares, pour là aussi il y en aura pour toutes les bourses, hein, mais on pourra se faire plaisir aussi avec des ouvrages beaucoup plus à la portée de tout le monde. Et en tout cas, ça sera l'occasion de découvrir ce qu'est la bibliophilie, cette passion pour le beau support qu'est le livre ancien. Il y a également à Villefranche de nombreuses animations de type festif, gastronomique, l'été dansant, les concerts jazz, avec notamment les haut-parleurs samedi qui organise donc un repas et un concert avec le Jocelyn Harriman Trio. Il y a aussi de la danse brésilienne à Decazeville. Bref, il y a beaucoup d'animations diverses et variées dont vous découvrirez la totalité du menu dans notre édition.
Et un concert gratuit à la salle des fêtes de Monteil proposé par la Fédération départementale des sociétés musicales de l'Aveyron. Sylvie Bouchaud, la présidente de la société départementale et l'invitée du magazine d'actualité Suite. Dans un instant, un peu plus tard, on parlera, un riche programme, hein, décidément aujourd'hui, on parlera de ces journées européennes des métiers d'art et notamment du collectif Entrée en matière. J'attends par les petits fils du téléphone Christophe Autin qui va nous parler du programme du week-end prochain. Ça se passe à Figeac. Eric, merci, une excellente semaine. À la semaine prochaine.
Au revoir.
CFM, le mag. Tous les jours, 12h30. La vie du Villefranchois.